Radio Barc, on se retrouve pour notre deuxième partie avec notre invité du jour, Philippe Chartier, auteur du livre « Infectiologie et vaccination ». Alors, on a, Philippe Chartier, un petit peu déblayé le terrain, si je puis dire, sur la base de votre livre, c'est-à-dire vous essayez d'informer les gens sur un certain nombre de notions. Alors, on a appris dans cette première partie que on a je ne sais combien de bactéries et qu'il y aurait une sorte de pourcentage, 80-20%, un équilibre en quelque sorte entre les bonnes et les mauvaises, et que c'est ça qui déterminerait ce qu'on appelle un patient en bonne santé.
Oui, oui, tout à fait. Un patient en bonne santé, bon, cela dit, le patient peut toujours avoir d'autres problèmes que ces problèmes d'équilibre de la flore intestinale, bien évidemment. C'est un élément qui permet de... j'ai la gorge qui racle un peu. C'est un élément qui permet d'avoir un bien-être physiologique. Cela dit, on n'est pas à l'abri
ah oui,
d'autres
pathologies. Alors justement, comment ça peut se gâter?
Comment ça peut se...
Ça peut se gâter, la situation se gâte. L'équilibre est rompu, en quelque sorte.
Alors, bon, il n'y a pas que l'équilibre intestinal, bien évidemment.
Oui.
Vous pouvez attraper une bactérie tout simplement en vous coupant, en ingérant un produit avarié, et qui va créer des soucis importants On attrape une klebsiella pulmonaire, on va avoir des problèmes au niveau pulmonaire en général. Salmonella typhi, ça va être plutôt au niveau intestinal, donc troubles intestinaux.
Oui, alors ces bactéries, alors elles se promènent dans la nature en quelque sorte, elles
sont
partout.
Des bactéries, on en a partout, on en a sur la peau, sur notre peau, qui aussi nous protège des agressions extérieures. Hein. On en a dans les muqueuses, dans le nez, dans la bouche, enfin toutes les muqueuses du corps humain, et on en a, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de nos intestins, bien sûr.
Oui, voilà. Mais alors, comment survient la maladie, en quelque sorte?
Alors, vous avez une bactérie qui pénètre l'organisme, et là, vous pouvez comparer en fait l'intervention de notre système immunitaire comme une armée qui voit un agresseur arriver et qui n'est pas reconnue comme une bactérie normale de l'organisme.
Oui, c'est la défense, quoi. Le système immunitaire, c'est une armée de défense.
C'est le système de défense de l'organisme. À partir de là, vous avez toutes les cellules immunitaires qui se mettent en branle. Donc vous avez les globules blancs en particulier, les macrophages, qui sont les... Et vous avez les anticorps, les anticorps de l'organisme, que vous avez reçu de façon naturelle ou que vous avez
par
reçu
vaccination.
Par vaccination, puisque l'immunité, par définition, c'est une action anticorps vis-à-vis d'un antigène qui a pénétré l'organisme. Donc c'est une réaction antigène-anticorps.
Alors ce système immunitaire, cette armée de défense, est-ce qu'elle réussit toujours à neutraliser l'envahisseur? Pas toujours.
Eh bien non, puisque l'organisme quelquefois a besoin d'un coup de pouce extérieur, et notamment par l'intermédiaire des antibiotiques.
C'est là où les antibiotiques jouent leur rôle, leur meilleur rôle lorsqu'ils sont efficaces.
Oui. Alors cela dit, il ne faut pas voir non plus que la massue, en fait, qui est représentée par l'antibiotique. Il faut prendre soin de son système immunitaire par des probiotiques, s'il y a un problème d'équilibre, justement, de la flore intestinale, probiotiques et prébiotiques. Les probiotiques, donc, ce sont des bactéries lyophilisées que l'on peut ingérer.
Et ça, c'est le médecin qui va vous le conseiller.
Ça, c'est le médecin qui va le conseiller, mais on peut les prendre également en tant que complément alimentaire.
Ça fait partie des suppléments que les gens peuvent prendre.
Voilà, tout à fait.
Oui, donc ça renforce. Alors, vous parliez pour les antibiotiques de massue.
Oui.
C'est fort comme terme.
Oui, c'est fort parce que utiliser un antibiotique, comme on le disait tout à l'heure, ça n'est pas bénin. Parce que à force d'utiliser, on va dire, la simplicité, parce qu'il faut dire que les antibiotiques sont très efficaces, eh bien, on arrive à des situations parfois très compliquées vis-à-vis de patients qui deviennent résistants aux antibiotiques.
Oui, hein, oui,
en fait, ce sont les bactéries du patient qui deviennent résistants.
Oui, oui. Ce qui rend à un moment la médecine un peu impuissante, alors là.
Oui, oui, il arrive. Il faut utiliser parfois des techniques qui n'ont peut-être plus rien à voir avec la médecine allopathique ou la médecine traditionnelle. Par exemple, on a réussi à sauver de l'amputation des patients par des huiles essentielles.
Ah oui, oui, hein? Oui, les huiles essentielles. On en parle de plus en plus apparemment, et c'est de plus en plus usité. Mm-hmm. C'est quoi? C'est une sorte de médecine alternative? Qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est une médecine alternative qui est reconnue pour son efficacité, mais qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions et avec l'avantage de ne pas avoir d'avoir très peu d'effets secondaires si elles sont bien manipulées.
Oui, mais là encore, c'est comme les médicaments. Il faut pas faire n'importe quoi,
n'importe quoi.
Oui. Non. Donc ça demande aussi une certaine compétence dans l'utilisation.
Ça demande une certaine compétence. Ça demande des conseils. Si vous allez chercher une huile essentielle
en pharmacie.
Le pharmacien est censé pouvoir donner les conseils appropriés concernant son utilisation et sa bonne maîtrise.
Alors, Philippe Chartier, vous avez parlé donc de l'armée de défense, les anticorps. Alors, les anticorps, c'est quelque chose qui est le résultat de la vaccination. Essayons d'expliquer. Alors, le terme lui-même, on va y revenir parce que c'est un mot qui, au démarrage, est un phénomène scientifique qui devient un phénomène un peu social, politique. Enfin, bon. Au démarrage, qu'est-ce que c'est que la vaccination?
Alors, la vaccination, c'est, au démarrage, ça a été très long, effectivement, à trouver la solution aux épidémies qui ont ravagé les populations dans les années avant 1930, par exemple. Hein.
Mais ça a été, enfin, les prémices ou la base du système aurait été plus ou moins découverte par un toubib, par un docteur anglais.
Oui.
Mais ça s'est développé plus tard, quand même.
Il y a eu plusieurs...
Alors, fin 18e, je crois. Fin 18e siècle.
Oui, 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 ça a mis énormément de temps entre les essais, hein, parce que à l'époque, évidemment que la médecine n'était pas aussi avancée qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Alors, je sais pas si mon accent anglais va être bon. C'est Jenner, à l'origine, qui avait constaté que il pouvait utiliser en fait des croûtes de la maladie qui s'appelle la variole et il a appelé ça la vaccine, d'où la naissance de la vaccination.
C'est-à-dire le principe, c'est ça, on inocule faiblement une maladie en disant à l'armée de défense, bon, maintenant exerce-toi à préparer les anticorps, c'est ça?
C'est ça. Alors aujourd'hui, on utilise les vaccins, et en fait, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de vaccins qui sont fabriqués à partir des souches bactériennes ou des souches virales. Et bien évidemment qu'on inocule ces souches bactériennes ou virales, mais en ayant travaillé auparavant en laboratoire, ces différentes sources, puisque le but, ça n'est pas d'injecter la maladie.
Eh oui. Hein,
le but, c'est d'injecter, en fait, les antigènes qui vont provoquer une réaction de l'organisme par la sécrétion des anticorps. Donc, on a plusieurs types de vaccins. On a des vaccins atténués. Hein, donc, travailler en laboratoire pour atténuer, en fait, la virulence
la réaction, quoi.
De la bactérie, s'il s'agit d'une bactérie, des vaccins inactivés, des vaccins synthétiques qui sont travaillé et produit en laboratoire, et des vaccins à base de toxines, puisque vous avez certaines bactéries qui sécrètent des toxines. Par exemple, les toxines botuliniques ou les toxines tétaniques. Donc on utilise ces toxines qui sont atténuées également pour fabriquer les vaccins.
Un type de vaccin particulier, voilà, à chaque fois.
Vis-à-vis de, des bactéries responsables soit du botulisme, soit de, du tétanos.
Voilà. Et alors la vaccination à l'ère moderne, c'est essentiellement Pasteur qui l'a
ensuite
fait fonctionner, on va dire.
Oui, c'est Pasteur qui a qui a développé. Alors après, il y a eu plusieurs acteurs et.
Alors on parle que dans l'imagerie populaire de vaccins contre la rage.
Oui. Oui.
Paraît-il, c'est le premier dont on a beaucoup parlé, paraît-il.
Oui, bon, il y a eu la variole, il y a eu la rage, énormément de, alors il y a eu la gale, la lèpre, la peste, la scarlatine, qui ont disparu quasiment sans vaccination de masse.
Alors comment, pourquoi?
Tout simplement par des conditions hygiéniques
meilleures, peut-être.
Alimentaires, puisque c'était des périodes qui étaient difficiles à vivre. Ensuite, il y a deux vaccins qui méritent quand même d'être cités parce que leur histoire est un petit peu particulière. C'est la coqueluche et la rougeole. Donc ça, on est dans les années 1930-1950, où il y a énormément de morts.
Ah oui, donc il a fallu attendre ces années-là pour que ça commence à fonctionner, oui, sur ces maladies-là.
Sur ces maladies-là. Et en 1950, on s'aperçoit que les épidémies de coqueluche et de rougeole ont tendance à s'estomper. Beaucoup moins de morts.
Mais on vaccinait déjà à cette époque-là.
Alors, aujourd'hui, on aurait tendance à dire, effectivement, que merci la vaccination anti-coqueluche, anti-rougeole. Sauf que, si l'on regarde l'historique, le vaccin contre la coqueluche est arrivé en 1952, donc bien après la maîtrise de l'épidémie, et le vaccin de la rougeole est arrivé en 1968. Donc, on ne peut pas mettre au crédit des vaccins la disparition de ces deux épidémies.
Mmh. Oui, donc la vaccination, ça a rendu apparemment d'immenses services, mais ça n'est pas la panacée.
Ah, ça n'est pas la panacée universelle. Aujourd'hui, on aurait tendance à en faire une espèce de baguette magique de la médecine, parce que aujourd'hui, quand on voit le nombre de vaccinations pour les enfants et le nombre de vaccinations obligatoires chez l'adulte, on aurait tendance à se dire, c'est la panacée. Maintenant, on maîtrise tout par la vaccination.
Oui,
ce qui est complètement fou.
Le problème étant qu'il y a des effets secondaires indésirables.
Alors, il y a des effets secondaires, bien évidemment, sur toute molécule active, on constate des effets secondaires. Maintenant, si l'on se réfère à la dernière vaccination...
Alors justement, là on va l'aborder, mais pour terminer cette deuxième partie, Philippe Chartier, vous avez évoqué différents types de vaccins. Là, il y a une technologie nouvelle qui arrive, c'est ce qu'on a appelé ARN messager. Bon, enfin, c'est compliqué si on n'est pas spécialiste, mais c'est celle... que tout le monde connaît depuis le Covid-19.
Et oui, c'est ça que tout le monde connaît depuis le Covid-19, parce qu'avant, il y a cette technique n'existait pas en termes de, entre guillemets, vaccination, parce que le terme vaccin, à mon avis, a été complètement manipulé. Un vaccin, il est censé être efficace. Et comme on le disait à l'instant, il est censé être relativement bien toléré.
Oui, toléré. Et c'est de là que démarre cette notion de scepticisme. Et là, on va y revenir dans une troisième partie, parce que vous allez nous expliquer votre position là-dessus, Philippe Chartier.
Tout à fait.